Radio Potager, l'émission de celles et ceux qui s'engagent pour le vivant. Terre et Humanisme s'invite sur Fréquence 7 pour parler d'écologie, d'agriculture, d'alimentation et de solutions aujourd'hui pour inspirer le monde de demain. Embarquez avec nous dans un voyage au cœur des initiatives engagées pour le vivant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Léa et aujourd'hui je suis avec Julia, éleveuse de chèvres et productrice de fromage à Chandolas, sous le nom Les Fromages de Loulia.
Oui, c'est bien ça.
Salut.
Salut.
Alors, d'où vient ce nom, Loulia ?
Alors, c'est un condensé de Pierre-Louis et Julia, tout simplement. Pierre-Louis est mon compagnon et lui, ben, il fait le berger. Et voilà, on a repris la ferme très rapidement, donc on n'avait pas trop d'idées de nom. Et il m'est venu en tête, si on faisait Loulia, t'en penses quoi ? C'est plutôt joli, ça n'existe pas. Et du coup, on est parti sur Loulia et... Et ça passe bien.
Ouais, et c'est facile à retenir.
C'est ça.
Cool. Alors, du coup, vous êtes installée depuis quand avec ton compagnon ?
Le 1er septembre 2021.
Le 1er septembre 2021, donc ça fait 4 ans, c'est ça. Et, à Chandolas, est-ce que tu peux nous décrire ta ferme rapidement,
enfin... Eh bien, c'est une chèvrerie communale. Donc, nous sommes locataires de la mairie. Quand on a débarqué en septembre, c'était une ancienne porcherie des années 60 qui avait été reprise après l'arrêt de l'activité par des chevriers en fin 90 et rachetée par la mairie en 2005 et qui a maintenu l'activité chevrière jusqu'à 2021-22. Et voilà, le bâtiment était en mauvais état et la mairie a réussi à obtenir des subventions et a aussi investi pour refaire tout à neuf. Donc aujourd'hui, on est dans une toute belle chèvrerie pédagogique qui se destine à recevoir du public, où on peut voir le fromage, on peut voir les chèvres, on peut voir la traite, et voilà.
Donc vous accueillez des écoles, des...
Pour le moment, donc ça s'est terminé en janvier, on a reçu du public, des groupes, c'était pour des aidants de personnes atteintes d'Alzheimer. On a eu aussi l'Université de Marseille qui est venue pour des échanges avec les professeurs et les étudiants, et voilà, petit à petit... Avec les écoles, c'est plus compliqué parce que voilà, l'organisation, c'est pas forcément évident pour les professeurs, pour le transport. Souvent, c'est la principale contrainte.
D'accord, mais ça va peut-être faire plus tard.
Mais... Petit à petit.
Et toi, tu te définis comment ton métier, c'est quoi ? Parce qu'on dit, enfin, tout à l'heure, j'ai dit éleveuse de chèvres, productrice de fromage, agricultrice, tout ça.
Paysanne. Et voilà, quand on décrit notre activité, on définit bien qu'on a un troupeau de chèvres et de brebis laitières et qu'on est en système pastoral.
Okay.
Donc c'est pour ça que je dis que mon compagnon est berger, c'est qu'il garde toute la journée les chèvres après la traite. Donc pour que les chèvres et les brebis mangent la garrigue autour de la ferme. Voilà, c'est quand même une sacrée surface et sur 200 hectares, il peut parcourir une dizaine de kilomètres aller-retour. Parce qu'il y a forcément un retour vu qu'on doit faire la traite le lendemain matin. Et donc voilà, si on doit décrire notre activité, ça serait celle-là.
Donc les 200 hectares, ça appartient tout à la chèvrerie communale ?
Non. Il y a 17 hectares de location avec la mairie et tout le reste, ce sont des particuliers, donc des propriétaires qui laissent à disposition les terrains pour que les chèvres puissent en profiter et entretenir le paysage.
Ok, donc c'est ça le côté système pastoral, c'est pour aussi entretenir les paysages. Ça participe...
Maintenir le milieu ouvert et ensuite avoir ce paysage de garrigue accessible et puis nous profiter aussi de la ressource qu'est la richesse de la garrigue en fait.
Pour nourrir les bêtes.
Nourrir les bêtes et faire du bon fromage.
Et alors toi Julia, quel a été ton parcours d'installation ? Est-ce que tu penses... Est-ce que tu as vu des embûches ou des choses qui étaient compliquées pour ton installation Ou au contraire, est-ce que tu as été aidée ?
Eh ben, on a eu beaucoup de chance. Parce que donc à l'origine on était dans les Pyrénées-Atlantiques, d'où vient mon compagnon. Il était installé avec ses parents et incompatibilité d'humeur avec mes beaux-parents, on a dû partir. On a essayé de s'associer avec eux par deux fois et ça s'est très mal terminé. Donc on cherchait à s'installer ailleurs. Mais bon, les opportunités d'installation ne convenaient pas, ou c'était trop cher, ou c'était pas convenable, beaucoup trop de travaux, pas forcément possible de développer l'activité à tel endroit parce que bah on n'était pas forcément les bienvenus. Il y a eu beaucoup d'embûches et donc à la deuxième au deuxième test d'installation d'association avec mes beaux-parents, on a décidé de prendre le large et de se rapprocher de mes parents qui sont à Nîmes. Et donc, c'était en plein été 2021 et je m'ennuyais beaucoup à Nîmes. Donc, je regardais les annonces et voilà, on a été voir différentes fermes en Ardèche jusqu'en Haute-Loire. Et pour finir, Sud-Ardèche, chèvrerie à reprendre avec le troupeau, mais départ très rapide. La personne voulait partir en septembre et nous, on a visité la ferme, c'était mi-août, quoi. Parce qu'elle voulait être présente pour ses enfants à la rentrée, etc. Et on a visité la ferme, on a même eu l'occasion de rencontrer le maire ce jour-là, qui nous a expliqué que son intention, c'était de refaire tout à neuf. Et ben, on est rentré chez mes parents à Nîmes ce jour-là, et ma mère était présente pour visiter, et elle n'était pas la dernière pour nous dire « mais c'est une super opportunité », parce qu'elle-même, elle nous avait suivis dans différentes options d'installation, et elle a bien vu les galères que ça pouvait être, elle a senti elle aussi que c'était un bon plan. Et du coup, le soir, en rentrant, on s'est dit « bah allez, on se lance, on perd pas grand-chose » parce que finalement, il fallait racheter le troupeau et le matériel et ça restait très accessible. Et donc, on partait sur une installation sans dette et reprise d'un troupeau, de surface, de parcours. Et nous, on avait l'expérience. Donc, même pas peur. Quelques jours après notre arrivée, la personne à qui on reprenait est partie parce qu'elle devait déménager. Donc, tout de suite, on a été baigné dedans et ça s'est bien passé avec le troupeau de chèvres. Et même, plus globalement sur la ferme, ça se passait bien. Et ben, en deux semaines, elle est partie et nous, on a pris la suite. Wow. Il nous manquait les brebis. Mon compagnon sans brebis était malheureux. Donc, l'hiver qui suivait, on a pris une dizaine de brebis basco-béarnaises. Et on était refaits. Et la suite, on est là encore aujourd'hui, quoi.
Et ça marche plutôt pas mal.
Ben ouais, 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 ouais.
Et tu parlais de ton expérience, enfin de votre expérience à tous les deux et tout ça. Donc, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as eu envie de devenir agricultrice ?
Alors, un parcours étudiant assez chaotique, que je me suis beaucoup cherchée, pour finalement avoir un stage à l'époque où j'étais étudiante en commerce international. J'ai eu la chance d'aller au Bénin à l'âge de 20 ans. Et quand je suis... Voilà, j'ai vécu un mois là-bas, mais ça a été une grosse claque. Et j'ai rencontré des maraîchers, j'ai rencontré des paysans, une école en agroécologie. Improbable, quoi. Et c'était merveilleux. Et je me suis réveillée le lendemain matin après cette visite en me disant « bah c'est ça que je veux faire plus tard ». Et j'ai dit « mais en fait, mes grands-parents qui étaient paysans, non, c'est génial ». À penser que c'était pas forcément un avenir possible pour moi, que c'était pas... Il fallait faire mieux, quoi, dans mon esprit. Mais ce jour-là, après cette visite de l'école au Bénin, j'ai dit « c'est ça que je veux faire, ça doit être un métier passionnant, on doit toujours apprendre des nouvelles choses ». Et bam, ça m'est resté pour toujours dans la tête, quoi. Et voilà, de retour du Bénin, j'ai quand même continué les études de commerce international. Je suis partie en Écosse et j'ai eu la chance d'avoir des modules sur l'agriculture en Afrique. Là-bas, à l'école de commerce en Écosse, bon, voilà. Et j'avais toujours ça en tête aussi. Et finalement, j'ai intégré une autre école, plus tournée sur le développement, mais ça me convenait pas. Et donc, j'ai arrêté cette école, mais j'avais en tête de faire de l'agriculture. Donc, c'était pas forcément le délire de mes parents. Donc, il a fallu trouver d'autres expériences. Prouver que c'était pas une lubie, et donc j'ai trouvé en cherchant agroécologie terre et humanisme, ah, oui, bénévolat. Et donc, j'ai trouvé... Il y avait une place de bénévole pour aller dans les jardins pendant 2 semaines. Et donc, j'ai fait ces 2 semaines de bénévolat. Mais il y avait l'AG de Terre et Humanisme qui suivait. Et en fait, j'ai tellement aimé que j'ai demandé à rester.
C'était en quelle année, ça?
Au 2009. et en fait, pareil, ça a été une grosse claque et ça a confirmé mon attraction pour la paysannerie. Et alors, après ça, on pouvait pas me remettre dans une école de commerce. Donc, j'ai dit, je vais postuler pour être technicienne agricole ou voilà, j'ai trouvé aussi à postuler pour ingénieur agronome en agriculture tropicale. Et finalement, j'ai été prise à Montpellier Supagro, au grand désespoir de mes parents. Mais voilà, à force de batailler, j'ai pu intégrer Montpellier Supagro où j'ai eu un parcours... d'étudiants où on allait en stage à l'étranger et ça a été génial. Et pendant les vacances, je partais en woofing parce que à Terre Humanisme, on m'avait parlé du woofing. Et donc, volontaire dans les fermes. Et voilà, moi, ingénieur agro, c'était pas forcément mon truc finalement, mais dès que je pouvais, je partais dans les fermes et c'est là où je m'éclatais.
Tu mettais vraiment les mains dans la terre, c'est là que tu faisais du concret.
Ouais. Et que, je rencontrais aussi. Faire des belles rencontres et c'était hyper enrichissant et stimulant et ça confirmait une attraction pour la paysannerie, oui.
Bah, c'est un sacré parcours. Assez mouvementé. J'avais une petite question, moi, sur ton genre, finalement. Donc, tu es une femme en agricultrice. Et selon le dernier rapport Oxfam sur les inégalités de genre dans l'agriculture, il y aurait actuellement 132 000 agricultrices qui n'ont pas de statut lié à leur travail agricole. Alors, toi, ton statut, c'est quoi? Tu es chef d'exploitation?
Je suis conjointe collaboratrice.
Okay.
Donc, dans le choix des statuts, on n'a pas beaucoup d'options. C'est donc là, on a fait le choix d'être une exploitation individuelle. Donc, il y a forcément un seul chef d'exploitation et s'il y a un autre, c'est conjoint collaborateur. Sinon, il fallait constituer un GAEC, qui est une toute autre forme d'installation, beaucoup plus contraignante. Et moi, mon objectif, c'était de pouvoir travailler à l'extérieur dans un premier temps. Je me voyais bien tailler la vigne, et c'est ce que j'ai fait la première année. Ça permettait il y avait le fait de garder aussi un chômage dans un premier temps, d'avoir cette sécurité-là. Parce que voilà, c'est bien joli de reprendre une ferme, mais c'est pas le métier d'agriculteur qui va nous financer des salaires. Donc, dans un premier temps, on a visé la sécurité. Et puis, les opportunités de travail on en trouvait, quoi, dans la vigne autour de la ferme. Et ça m'a permis de connaître du monde aussi. Et bon, au moment des mises bas, c'était quand même compliqué de tout gérer, mais mon compagnon a vraiment géré la situation. Ça mettait bas dans la garrigue, il repérait où est-ce qu'étaient les chèvres, il allait les chercher le soir avec les chevreaux dans les bras. Enfin voilà, ça a été une aventure, mais il a vraiment géré. Et puis, parce que dès qu'on est en GAEC, on peut plus travailler à l'extérieur. On a un maximum d'heures possibles de travail à l'extérieur. Et j'avoue que moi et les papiers, c'est pas mon truc. Si je suis paysanne, c'est pas pour faire de l'administratif pendant des heures et des heures par semaine. Donc voilà, on a fait ce choix. Ça nous simplifie beaucoup les choses, même en termes de papiers, de compta. Mais la MSA, donc la mutuelle agricole, nous oblige aujourd'hui à changer de statut. On peut pas maintenir le statut de conjoint collaborateur plus de 5 ans. Donc, on va sûrement intervertir les statuts.
J'allais demander, du coup, ça serait quoi si ça évolue? Parce que au bout de 5 ans, tu deviens quoi, du coup?
Eh ben, c'est souvent pour nous forcer à partir sur un GAEC. Okay. Mais a priori, on a aussi le choix d'intervertir les statuts. Donc, on va sûrement faire comme ça. On va voir si ça peut se faire. Ouais.
Ok. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Tu as choisi un morceau de Anne Sylvestre qui s'appelle Bergère. C'est très à propos.
Ah, dis-moi donc, bergère, à qui sont ces moutons? Messieurs, à la bergère, qui se les achetions. Et mon pied au derrière, devinez qui l'auront. Ah, dis-moi donc, bergère, comment me parle-t-on? Messieurs, pour vous y faire, on a changé de ton. Et mon pied au derrière n'est pas pour mes moutons. Ah, dis-moi donc, bergère, mais que s'est-il passé? Ce n'est pas du tout ce que mon père et mon grand-père m'ont raconté. Ils m'ont dit que les filles n'attendaient plus que moi, qu'avant de fonder une famille, je devais m'amuser comme un roi. Ah, dis-moi donc, bergère, tu as de bien beaux yeux. Vous parlez de mon derrière, je le sais bien, monsieur. Mais c'est pas votre affaire, le touche qui je veux. Bergère, allons, bergère, tu n'y es pas du tout. Moi, je voulais te faire un brin de cour, c'est tout. Enfin, voilà des manières, votre cour, je m'en fous. Dis-moi, dis-moi, bergère, pour qui te prends-tu donc? Soit dit sans vouloir te déplaire, tu as le nez beaucoup trop long. Tu as la taille fine, la jambe beaucoup moins. Tu n'as pas assez de poitrine et tu aurais besoin d'un shampoing. Ah non, vraiment, bergère, à bien te regarder. Vraiment, tu exagères de tant me résister. Tu devrais être fière que je t'ai remarqué. Monsieur dit la bergère, ne faites pas rigoler ce que votre grand-père vous a pas expliqué. C'est que je les préfère un peu mieux baraquer. Et la pointe la bergère, le soleil dans les yeux. N'en déplaise à monsieur votre père, vous n'êtes pas terriblement vieux.
On est toujours dans Radio Potager sur Fréquence 7 avec Julia des fromages Loulia à Chandelas. Et sans mauvais jeu de mots, revenons-en à nos moutons pour pouvoir nous mettre dans les bottes d'une éleveuse de chèvres et de moutons. Est-ce que tu pourrais nous décrire ta journée type? Tu te lèves le matin et qu'est-ce que tu fais?
Eh ben, je prépare les bidons, je prépare... je mets du petit lait, le petit lait de la veille pour réceptionner le lait du jour. Comme ça, ben, en fait, le lait qui sera filtré de la traite va déjà travailler pour anticiper ensuite les bonnes bactéries pour faire le fromage. Donc, il y a déjà toute cette préparation-là, être sûr que le matériel est bien sec pour faire le meilleur fromage. Et donc, je prépare. Mon compagnon, lui, nettoie les mangeoires pour réceptionner ensuite les chèvres. Parce qu'en fait, notre installation aujourd'hui, on a une grande mangeoire où on va bloquer les chèvres et les traire à la main. Donc, on nettoie la mangeoire, on y met du maïs pour les attirer, parce que les chèvres, elles viennent pas non plus sans rien, ils leur font les bonbons, et donc on leur met juste quelques bonbons, elles mettent la tête, on les bloque, et après on en a une trentaine d'un coup bloquées, et on les traite à la main. Donc ça, on faisait pas forcément au début on avait un chariot de traite, ça faisait beaucoup de bruit, c'était contraignant, et puis ben voilà, on n'a pas forcément des chèvres très qui font beaucoup de lait, donc à la main ça se fait bien, et nous on apprécie le silence et pouvoir écouter la radio et donc il y a tout un temps de traite là, surtout au printemps les chèvres elles font plus de lait, donc on a quand même pas mal de lait à traire le matin, il faut compter à peu près 2 heures. Donc une fois qu'on a fini les chèvres, mon compagnon lui va faire les quelques brebis qui font du lait, et voilà, après je réceptionne tout le lait, on le met au froid, parce que pour faire le picodon, il faut refroidir le lait à 19 degrés, sachant que le lait sort à la température corporelle de la chèvre, et donc par des journées comme en ce moment, il faut le mettre au froid pour que ça descende à 19 degrés. Et pendant que ça refroidit, mon compagnon part avec le troupeau. Et moi, je fais la vaisselle, je retourne les fromages de la veille, je sale les fromages d'encore avant. Et puis, il faut faire la vaisselle des moules aussi. Et puis, une fois que le lait est à bonne température, je le mets à cailler. Donc, on met de la présure, qui est finalement un extrait de la caillette du chevreau, qui a bu que du lait et qui permet de figer le lait au bout de 12 heures et qui permet de faire le petit lait et le caillet qu'on va ensuite, qui va nous permettre d'être moulé et ensuite tout le process du fromage.
Et puis, j'imagine qu'il y a aussi à mettre dans ta journée le magasin de producteurs, la vente, préparer les stands pour les marchés et éventuellement ton engagement aussi, parce que je crois que tu es assez engagée dans plein de choses.
Eh bien, effectivement, il y a les livraisons au magasin et aujourd'hui, je ne fais plus de marché vu que le magasin à Notre-Dame-la-Bâchère en libre nous permet d'écouler suffisamment les fromages. Et on fait un peu de vente directe à la ferme aussi. Aujourd'hui, il y a pas mal d'engagements, de réunions, à devoir slalomer, à être à l'heure. Des fois, les réunions, c'est le matin, donc il faut se lever particulièrement tôt. Mais j'ai aussi de l'aide, j'ai une apprentie. Il y a aussi une ancienne stagiaire qui vient prendre le relais le matin quand je peux pas mettre à cahier, etc. Parce qu'il faut quand même... pas mal de temps. Donc, quand on a une réunion à 9h à Priva, c'est pas évident. Et donc,
voilà. Une réunion à Priva, donc c'est pour la conf?
La conf ou la chambre d'agriculture?
La chambre d'agriculture.
Les deux.
On en avait parlé dans une émission au début du printemps. Donc, tu étais venue pour parler de champs libres et on avait rapidement parlé de ton élection pour la chambre d'agriculture. Tu peux nous en dire deux mots?
Eh bien, depuis, donc, officiellement... mars, avec l'équipe de la Confédération paysanne, on s'est présenté aux élections de la Chambre d'agriculture qu'on a remportée. Et donc, on est 13 élus, plus élus propriétaires à la Chambre d'agriculture.
C'était un peu bloqué au début, mais est-ce que ça a évolué là,
oui,
depuis?
Officiellement, donc le 1er avril, il y avait un recours, en fait, de la FDSEA qui reprochait que notre campagne n'était pas loyale par rapport à différents événements. Et finalement, le tribunal administratif de Priva a rejeté le recours et officiellement, on est élu à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche.
Bravo.
Et moi, donc, je ne fais pas partie du bureau. Je garde un poste intermédiaire entre la Chambre d'agriculture où je m'investis, mais aussi je continue de m'investir au sein du collectif de la Confédération paysanne. Donc, je slalome un peu entre les deux postes et c'est passionnant parce que à la fois, on voit ce qui se passe sur le territoire, à la rencontre d'autres élus, pas forcément que de l'agricole, donc il y a aussi tout ce qui est la gestion de l'eau, l'urbanisme, et tout ça, on a l'occasion de le traiter au sein de la Chambre. Et le collectif Confédération Paysanne nous permet aussi d'aller plus loin, comme on pouvait le faire auparavant, d'être sur le terrain et de maintenir nos convictions et d'avancer aussi sur tout ce qui se fait au niveau associatif. C'est génial de pouvoir porter tout ça sur ce territoire, d'avoir en plus en plus de notre activité d'éleveur, quoi.
On peut dire que tu as un métier assez polyvalent.
Oui.
Avec des journées bien variées.
Oui, bien variées, bien remplies. Je vois plus le temps passer. Mais c'est génial parce que humainement aussi, c'est extraordinaire. Ça porte. On se sent vraiment acteur de ce territoire et c'est hyper stimulant. Et ça, et tout ça pour 6 ans. Donc, on se dit qu'il y a de quoi construire pas mal de choses.
Et parmi tout ça, entre tes engagements, on peut dire politiques, et ta pratique en tant que paysanne, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de nous parler, plus spécifiquement, que tu aimes particulièrement tout.
Non, j'avoue que j'adore défendre le pastoralisme avec les collègues bergers du Sud Ardèche. Parce que c'est important de se faire entendre, que en fait on est des paysans sans terre, donc Voilà, comme j'expliquais, nous, la plupart des surfaces, on n'en est pas propriétaire, ni même locataire. On n'a aucune sécurité foncière. Et je pense qu'en Sud-Ardèche, c'est une priorité de pouvoir avancer sur ça pour maintenir des paysans. Et plus que maintenir, d'installer aussi des nouveaux paysans et aussi en interaction avec la population. Que non seulement il y ait de la paysannerie, qu'elle puisse en vivre et que ça bénéficie à la population. Donc là, ça, c'est le Graal.
T'en parles avec tellement d'enthousiasme que franchement, ça donne envie de s'installer presque.
Mais oui.
Mais on arrive déjà au bout de l'émission. On aurait pu encore parler des heures. On n'a pas parlé de la lactation longue. On n'a pas parlé de toutes les pratiques super que tu mets en place. Mais ça sera pour une prochaine fois, en tout cas. Et si on veut déguster tes fromages, on peut les trouver à Champs Libres, à Notre-Dame de la Blachère. Et merci beaucoup d'être venu parler
merci
de toi,
à toi,
de ton métier.
Merci.
Très beau. Et merci à Sylvain et à Fréquence 7. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.
À bientôt.